Les informations, Jean-Paul Picci.
Bonjour, 12 ans, 4 projets et au final, pas d'œuvre d'art. Le palmier de Gorgi a trouvé son épilogue hier soir à Saint-Aubin par la projection d'un documentaire sur cette saga. Il donne la parole au protagoniste de cette histoire à rebondissement. La Chaux-de-Fonds devra patienter pour voir ses nouveaux trolleybus arriver. Après les soucis rencontrés avec la première livraison de machines, Transen souhaite patienter avant de passer une autre commande. La population suisse est majoritairement bien disposée à l'égard des personnes LGBT qui QIA+. L'enquête publiée aujourd'hui par GFS Bern souligne toutefois que les préjugés et intolérances persistent, notamment envers les personnes transgenres et intersexuées. L'hiver frappe à notre porte, une masse d'air polaire nous touche, donnant un ciel changeant, alternant entre éclaircies et quelques averses de neige mouillées de grésil jusqu'à basse altitude. Les températures seront comprises entre 0 et 5 degrés. Pas de palmier, mais un documentaire et 1500 porte-clés. 12 ans plus tard, la saga du palmier de Gorgier a pris fin hier soir à la salle des spectacles de Saint-Aubin. Le film de 35 minutes réalisé par Jacques Maté a été projeté en présence de l'artiste, des autorités politiques et de la population. Ce documentaire revient sur l'histoire de l'œuvre d'art de Christian Gosenbach qui aurait dû être implanté à la prison de Gorgier, puis sur le lac. Mais tous les projets d'emplacement ont fait l'objet d'opposition. Au final, l'État a décidé l'été dernier d'abandonner l'idée, mais de réaliser ce documentaire, l'artiste Christian Gosenbach.
Le film, il réunit, j'ai envie de dire, toute la famille du palmier, parce que ça crée des liens, tout ça. Qu'on soit pour ou contre, on est liés par un même projet. Et je trouve que le travail de Jacques Maté, de donner la parole à chacun dans des décors qui sont finalement le château, un peu le bord du lac, mais très peu d'images réelles. Je souhaitais aussi qu'il n'y ait pas d'image réelle, puisque ce projet n'a jamais eu de réalité. Et finalement, on reste dans le fantasme et dans l'histoire, mais une histoire qui nous relie, quoi. Donc, beaucoup de plaisir à regarder le film.
Et un des opposants qui a dit que lors d'une séance, il l'avoue ce soir, il a été odieux.
Ah ouais, j'ai très très mal vécu cette soirée-là. Pour moi, c'était extrêmement dur, parce que qu'on ait autant de hargne face à quelque chose que je pensais être bien. Et cette même personne a vraiment osé dire qu'en fait... C'était ça la politique aussi, c'est d'utiliser des arguments, quels qu'ils soient, pour dégommer un projet, c'est ses propres propos. Mais moi, je pensais que les gens disaient ce qu'ils pensaient et du coup, je l'ai pris assez frontal. Ouais. J'ai très mal vécu ce moment-là.
Des propos recueillis par Sarah Massy, l'œuvre de Christian Gosenbach est aussi immortalisée par 1500 porte-clés réalisés et signés par l'artiste. Les habitants de la Grande Béroche peuvent s'en procurer un dès aujourd'hui au bureau communal de Saint-Aubin. Les prévisions sont en amélioration, mais restent dans le rouge au Locle. Le conseil communal a présenté ce matin le budget 2025 de la maire commune. Il affiche un déficit de 1,4 million de francs. Ce n'est pas satisfaisant pour l'exécutif, mais c'est encourageant parce que meilleur que le précédent exercice de près d'un million. Cette amélioration est due essentiellement à la progression estimée des recettes fiscales de 1,7 million de francs, dont une grande partie est imputable à l'impôt sur les frontaliers. Reste un déficit structurel de 1,2 million qui empêche la commune du Locle de voir la vie en noir. L'exécutif entend bien se pencher sur cette problématique et trouver des solutions. Anthony von Almen, chef des finances locloises.
Le conseil communal aujourd'hui est en train de réfléchir à l'élaboration d'un programme de législature. Donc on veut vraiment, en début de législature, se poser, réfléchir aux objectifs qu'on se fixe, où on veut amener la ville durant ces 4 prochaines années. Et puis au niveau financier, il y a bien entendu des questions à se poser, notamment par rapport à des prestations que l'on fait ici et que l'on ne fait pas ailleurs, et par rapport au train de vie de la ville de manière générale, pour résorber ce déficit structurel.
Mais ce déficit structurel, les autorités se cassent les dents dessus, législature après législature. Qu'est-ce que cette nouvelle équipe du conseil communal du Locle peut apporter de plus ?
Alors, possiblement de nouvelles idées et aussi une nouvelle façon d'appréhender la situation. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une baguette magique pour résoudre les problèmes. Mais on doit se poser la question, d'une part, des recettes et de l'autre part, des prestations qu'on offre et voir si c'est encore en adéquation, finalement, avec les besoins de la population.
Des propos recueillis par Claire Viget. Selon le budget 2025, le Locle prévoit d'octroyer la compensation de l'inflation et l'échelon automatique à son personnel. L'enveloppe des investissements nets prévus pour 2025 s'élève à 10 millions de francs. Elle concerne principalement l'assainissement de la piscine et le projet de nouvelle station d'épuration. La Chaux-de-Fonds devra encore patienter avant d'avoir ses nouveaux trolleybus. Interpellé par les Verts lors de la séance du Conseil général hier soir, le Conseil communal de la métropole horlogère a fait un point sur la situation. En avril dernier, 10 véhicules sur les 18 livrés en 2023 avaient été mis à l'arrêt par Transen à la suite des soucis techniques. Ces problèmes ont retardé la mise en service et repoussé la deuxième commande de véhicules. La ville de La Chaux-de-Fonds n'a donc toujours pas pu les intégrer à son réseau. Le point avec Théo Ignaeli, conseiller communal chaudefonnier en charge de la mobilité.
Transen attend que les problèmes avec les bus qui ont été livrés par l'entreprise S soient réglés pour passer commande du lot suivant. Parce que ce sont des investissements qui sont majeurs. Entre les bus, ça coûte extrêmement cher à l'achat. Donc effectivement, on se réjouit que Transen puisse passer commande de ce deuxième lot. Et selon les informations que nous avons, ou plutôt, on verra les trolleybus du deuxième lot, pas du premier. Premier, ça pourrait déjà être en 2025, mais les trolleybus du deuxième lot circulent en ville de La Chaux-de-Fonds en 2027.
Le projet de commande initiale à l'entreprise Soleroise S prévoyait 30 trolleybus. Ils devraient normalement être tous présents sur le réseau Transen dès 2027. Les salles obscures de l'Arc Jurassien se mobilisent pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Elle se tient aujourd'hui. Cela fait 35 ans que la Convention de l'ONU qui s'y rapporte a été adoptée et la Suisse l'a ratifiée en 1997. Dès cet après-midi, Cinémon, Cinévital et Cinépel proposent des projections mais aussi des tables rondes pour aborder le sujet complexe et souvent tabou des violences. Cette journée va permettre de mettre en avant plusieurs problématiques. Daniela Schneck, initiatrice du projet.
Alors, elle mettra en avant, bien évidemment, la prévention des violences, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, comme on le sait. Et puis aussi, une réflexion sur un meilleur accompagnement des victimes de violences domestiques et sexuelles, sachant que, on le sait, un enfant qui a été violenté dans son enfance, il y a des conséquences ensuite à l'âge adulte, généralement, et ça peut être des conséquences assez dramatiques, soit une reproduction de la violence, soit des comportements addictifs, des conduites à risque, ou d'autres problématiques dont on a à se préoccuper.
Les violences domestiques et sexuelles, c'est un sujet qui est encore tabou actuellement.
C'est un sujet dont on a de la peine à parler. Alors c'est vrai qu'il est plus agréable de parler d'autre chose, hein, mais c'est quand même, je dirais, un des thèmes les plus sérieux, les plus graves, vital, hein, finalement. Et on devrait, je pense, en faire la priorité des priorités. Et pas un sujet où on se dit, mais on a le temps, où il faut du temps. Il y a des urgences vitales, il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, soutenus, les associations réclame aussi des moyens. C'est aussi important de réfléchir à comment accompagner les familles, comment mieux faire au niveau des écoles. On a besoin de ressources, on a besoin de formation. Même chose au niveau des professionnels de la justice. Mais je pense que si on se mobilise, toutes et tous, on peut parvenir vraiment à encore faire changer le cours des choses.
Daniela Schneck répondait à Lydiane Gena dans la matinale. Retrouvez toutes les informations sur cette journée internationale des droits de l'enfant au cinéma en lien sur rtn.ch. Dans le reste de l'actualité nationale, une plus grande flexibilité pour les assurés. Il sera possible de changer de modèle d'assurance maladie en cours d'année aussi pour profiter d'une option alternative plus avantageuse. Le Conseil fédéral a fixé aujourd'hui l'entrée en vigueur de cette ordonnance au 1er janvier 2025. Actuellement, les assurés, qui peuvent librement choisir leur prestataire et leur franchise, ont la possibilité de changer d'assurance pour un modèle avec un choix de prestataire limité, soit un modèle alternatif seulement en fin d'année. 15 nouvelles mesures seront déployées pour préserver la biodiversité en Suisse. Le Conseil fédéral a adopté aujourd'hui la deuxième phase de son plan d'action en la matière. Il débloque pour l'occasion une enveloppe de 24 millions de francs pour les années 2025-2030. La population suisse éprouve une grande majorité de la sympathie et de la compréhension envers les personnes homosexuelles. C'est ce que révèle une étude de GFS Berne publiée ce matin. L'Institut a été mandaté par Amnesty et les principales associations LGBTQIA pour faire le point de la situation. Ce sondage montre que la tolérance diminue lorsqu'il s'agit d'introduire des bases juridiques, des réglementations ou des aménagements pratiques. La population fait aussi preuve de beaucoup moins d'ouverture envers les personnes trans, intersexes ou non-binaires. Les explications d'Anaïs Kaiser, responsable plaidoyer pour l'organisation Transgender Network.
C'est des questions qui viennent aussi vraiment ébranler des conceptions assez normatif dans notre société. On vit dans un système binaire, on a construit notre société avec un cadre binaire très fort. Même si ce n'est pas quelque chose qui reflète forcément de la diversité de nos existences, beaucoup de personnes tiennent très fortement à ce cadre binaire et ont très peur que ce cadre soit secoué. Je pense que c'est important de comprendre qu'accorder des droits aux personnes trans et intersexes, ce n'est pas enlever des droits aux personnes cisgenres. Donc voilà, il y a aussi un besoin de se familiariser et un petit peu de travailler sur cette peur. Ce qu'on voit aussi dans cette étude, c'est que cette peur, elle est en grande partie influencée aussi par des politiques de droite, des politiques conservatrices qui viennent véhiculer beaucoup d'idées négatives sur ces minorités. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé aussi très intéressant un peu de voir que c'est beaucoup la conséquence des pouvoirs politiques qui va créer ces postures queerphobes.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vieumier. L'étude montre aussi que les personnes LGBTQIA+ sont plus exposées aux discriminations. Une personne sur trois a même été agressée physiquement ou sexuellement sur ces 5 dernières années. À l'étranger, Pierre Palmade face à la justice. Le procès de l'humoriste français s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Melun. Il est jugé pour blessure involontaire aggravée près de 2 ans après le grave accident routier qu'il a provoqué sous l'emprise de stupéfiants. Le comédien, l'accident avait fait 3 blessés graves d'une même famille, un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Enfin, quelques mots de sport. Union Neuchâtel est fixée. Le club de la Riveraine affrontera Lugano en quart de finale de la Coupe de Suisse de basketball. Le tirage au sort vient d'avoir lieu. Les hommes de Mitar Trivunovic auront leur chance face à des Tessinois qu'ils ont battus il y a un mois en championnat. Cette rencontre aura lieu entre le 10 et le 12 janvier. Du changement sur le banc du FC La Chaux-de-Fonds. Arrivé il y a quelques semaines, le coach Christophe Drault disputera déjà son dernier match à la tête du club de Première Ligue de football ce dimanche. Une information d'Arc Info que nous a confirmé le président du club. L'entraîneur intérimaire sera remplacé par l'actuel coach des Interas du FCC et ancien entraîneur de Cofrane, Antonio Baldi. Ce dernier reprendra l'équipe dès lundi pour la trêve hivernale et la préparation du deuxième tour. Le FC La Chaux-de-Fonds est actuellement avant-dernier du classement avec 7 points et est en position de relégable. Bon appétit, bon après-midi.